Bon, eh bien, merci beaucoup de votre présence et ça me fait vraiment plaisir de donner une midi-conférence. Ça fait quelques années que j'étais plus intervenu dans les midi-conférences. Puis il y en a quelques-unes comme ça qui jalonnent mon parcours, dont la première, c'était ma présentation de mon projet de doctorat à l'époque. Pas projet, mais les résultats de ma thèse doctorat. Ce que je vais présenter aujourd'hui, donc qui a pour titre mesurer la conflictualité, en fait, je dirais que c'est un sujet qui, bon, déjà j'ai un intérêt particulier pour ces questions d'analyse des conflits que je mets en lien étroit avec la participation, mais ça on le verra. Mais disons que où j'ai beaucoup de plaisir à développer cette idée concernant la mesure de la conflictualité, c'est que ça m'a permis de concilier un peu bizarrement mon passé d'ingénieur en hydrologie avec mon intérêt actuel pour les activités conflictuelles. Alors vous allez voir que c'est un peu étonnant de voir comment ces deux sciences peuvent se marier, mais je crois que quelque part, pour développer cette proposition à mesure de la conflictualité, il faut d'abord être un ingénieur en hydrologie, puis peut-être ensuite se tourner vers d'autres choses, qui est un parcours assez, assez particulier, puis pas si commun. Je mentionne aussi que que l'essentiel de cette présentation, en fait, fait partie d'un article qui a été soumis à la revue Urban Studies à la fin juin de cette année, dont je suis l'auteur avec Mathieu Pelletier, Anne-Catherine Favre, qui est une statisticienne du département de mathématiques ici à l'Université Laval, et Paul Villeneuve, que vous connaissez bien. Voilà. Donc, je commence par poser un petit cadre, je dirais, théorique, un peu autour de cette question des conflits urbains. L'idée, c'est qu'il y a énormément de recherches qui tournent et je dirais, j'observe quand même une dynamique hein, de la recherche autour des conflits qui est actuellement en développement, mais avec des angles qui sont très particuliers. Des fois, on ne parle pas de la même chose, on utilise les mêmes mots, conflits, mais en fait, on se rend compte que c'est des choses assez différentes. Donc, c'est important, je crois, de commencer ma présentation en disant, ben voilà, lorsque je parlerai de conflit ici, ça veut dire ça. Et voilà l'approche qu'on suit au sein de la chaire en aide à la décision territoriale notamment, mais aussi avec d'autres collègues ici au Québec plus généralement autour de cette question. Bon, je pars de constat, c'est que les projets territoriaux sont très souvent mis en difficulté ou bloqués par des conflits intenses et longs. Ça c'est quelque chose, je ne vais pas insister beaucoup parce que je crois que ceux qui s'intéressent aux questions d'aménagement du territoire, on partage ce constat. On parle, vous avez peut-être entendu parler des acronymes, le plus connu c'est NIMBY, Not in My Backyard, mais il y en a d'autres comme CAVE, ça veut dire Citizen Against Virtually Everything, LULU, PIMBY, ça c'est une nouveauté que je ne connaissais pas il n'y a pas très longtemps, c'est Please in My Backyard, ça c'est pour par exemple des communes qui se disputent pour avoir une infrastructure qui peut amener des bénéfices. Un autre constat, c'est qu'autour de ces situations, je dirais que le débat est en général assez caricaturé. Ça veut dire que lorsqu'il y a un projet sur le territoire qui apparaît, puis que des gens s'opposent au projet, souvent des résidents proches de l'infrastructure, eh bien, on va vite les cataloguer. On va dire, c'est des NIMBY, en disant que c'est un phénomène NIMBY. On a plutôt tendance à dire que c'est des égoïstes qui ne pensent pas au bien de tous. On va parler de nonistes. Ça veut dire que c'est des gens qui ne sont pas ouverts sur l'évolution, sur le progrès. Ils sont assez vite catalogués dans un type qui n'est pas positif. En Suisse, on parle de Neinsager. Ça revient au même, c'est les gens qui disent toujours non. Et on leur reproche de dire toujours non. Et moi, ce que je crois, c'est que on se met un peu dans des stéréotypes comme ça, au lieu de se dire, s'ils disent toujours non, c'est peut-être qu'il faut qu'on revoie nos manières de faire Ben, peut-être de faire les projets urbains, mais peut-être aussi de les amener, de les concevoir, d'impliquer les gens qui sont concernés par ces projets avant qu'on arrive sur la place publique en disant voilà, prochainement dans votre quartier ben, arrivera une nouvelle infrastructure ou votre quartier va changer, etc. Donc, la réponse qui est mise en place face à ce phénomène, souvent c'est la mise en place de procédures dites participatives. Mais je crois qu'il faut quand même insister. Je trouve qu'il y a des choses très très intéressantes qui se font, mais les expériences les plus intéressantes sont aussi souvent assez éphémères. Si on regarde dans les pratiques d'aménagement du territoire, eh bien, la participation est quand même assez... elle n'évolue pas énormément. Il y a de l'évolution, mais quand même on reste sur des pratiques... assez limitées qui s'orientent beaucoup sur les questions de consultation. En grande partie. J'en arrive au plan de cette présentation. Donc, l'objet, on va définir l'objet d'étude, donc parler un peu de projet urbain, décision territoriale, décision et conflit, parce que l'angle qu'on développe, c'est particulièrement autour de l'aide à la décision. On va mentionner l'Observatoire des conflits, qui est l'outil essentiel de cette tentative de mesure de la conflictualité. On va introduire des notions comme durée, intensité, fréquence. Et après, je vais décrire cette méthode pour mesurer la conflictualité, puis on arrivera aux conclusions. Donc, ce qu'il faut voir, c'est que cette présentation, elle va être essentiellement de nature méthodologique, c'est-à-dire qu'on va plutôt expliquer comment on peut mesurer la conflictualité qu'exploiter des résultats de mesure de conflictualité, parce que ça, c'est un peu les recherches qui devraient venir à partir de celle-ci. Donc, il y a un peu deux grandes manières d'étudier, ou bien dans les recherches, disons plutôt comme ça, dans les recherches sur les conflits en aménagement du territoire, il y a deux grands objectifs. Un objectif, c'est celui d'étudier les conflits comme révélateurs de divers phénomènes ou d'évolutions. Alors, par exemple, révélateur du lien social. Et là, je cite, il y a beaucoup d'auteurs qui peuvent être cités sur ces questions-là, mais là, j'ai une citation d'un travail de Boileau qui dit que l'autre est la condition de l'affirmation de notre propre identité. Ça veut dire que dans le conflit en soi, c'est une interaction entre deux personnes et que en étant en conflit avec un autre acteur ou un autre type d'acteur, on prend en fait un groupe ou un individu peut prendre identité, peut définir son identité. Donc on peut étudier le conflit justement sous cet angle-là. On peut étudier le conflit comme sous un angle plutôt géographique, comme un rapport au lieu, à la proximité. Là, j'aime bien la citation de Valérie November qui mettent de l'avant le fait que souvent des territoires en entrant en conflit se définissent, deviennent des territoires, c'est-à-dire que des lieux qui sont encore peu investis par les acteurs ils prennent de l'importance et après les gens se reconnaissent comme faisant partie de ce territoire. Il y a une identité territoriale qui s'affirme simplement par le fait de s'engager dans la défense en fait de ce territoire. Donc cette idée de le lieu fait le conflit, mais le conflit fait le lieu dans le même temps. On peut s'intéresser aussi à la question des conflits, comme observer les conflits pour observer une évolution des mouvements sociaux et des mouvements urbains. Alors là, par exemple, on peut mentionner les travaux de Pierre Hamel, qui étudie l'évolution des conflits comme pour révéler l'évolution de pratiques dans les organisations, comme l'évolution, une critique par exemple de la rationalité instrumentale ou technocratique, des conflits qui apparaissent comme des critiques des modèles dominants d'organisation sociale. Le conflit est aussi abordé sous l'angle des réflexions sur la démocratie locale et la gouvernance. Et là, un des auteurs importants sur ces questions-là, c'est Loïc Blondiot. Loïc, hein. Bon, second grande famille de recherche sur la question des conflits, là, on s'inscrit plutôt dans une recherche de type gestion. Alors, l'idée, c'est d'étudier les conflits, mais pour les résoudre. En fait, souvent, quand même, même si on va nuancer cette affirmation, c'est pour les éliminer, pour qu'il n'y ait plus de conflit. Alors, il y a une des personnes avec qui je commence à collaborer, c'est André Thor et Thierry Kirat, qui sont des chercheurs à Paris, à AgroParisTech. Thierry Kirat, c'est un économiste. Et en fait, sous l'angle économique, et ça j'ai mis longtemps à le comprendre, et c'est souvent ce qui arrive quand on passe d'une discipline à l'autre, c'est que le conflit en tant que tel, c'est un échec du contrat, en fait. C'est-à-dire que la transaction entre deux acteurs se gère par un contrat, et si le contrat est bien fait, ils ne sont jamais en conflit. Donc le conflit, dans un regard strictement économique, c'est vu comme un dysfonctionnement de la coordination, donc il révèle d'une pathologie. Et ceci fait que de son point de vue, en économie, le conflit en tant que tel n'est presque pas étudié, parce que c'est comme les conséquences malheureuses d'un système économique qui ne fonctionne pas bien. Donc, mais eux, dans leur recherche, ils essayent de développer un regard particulier, un intérêt particulier pour cette question du conflit sous l'angle économique. D'autres regards, cette fois basés plus sur les recherches en urbanisme, par exemple, ça veut dire que là, on se tourne plus directement vers des approches qui ont pour but de construire un accord entre les personnes qui ne sont pas d'accord sur un projet d'aménagement au territoire ou d'urbanisme. Puis il y a tout un courant de pensée et de méthode qu'on peut ramener sous le terme de consensus building. Qui propose des modes d'interaction entre acteurs basés sur le croisement des savoirs, mettre ensemble des citoyens, des experts de l'esthétique, de la technique, par exemple, et puis faire émerger de ces discussions une connaissance commune qui permet de repenser en fait le projet urbain. Ensuite, on trouve aussi dans une complètement autre orientation des recherches, et c'est un corpus de recherche qui est très, très vaste sur la gestion du conflit, en termes de gestion, c'est-à-dire que c'est de la recherche dans le champ de la gestion, où on a des stratégies qui sont mises en place pour gérer le conflit au sein des organisations, mais proposer en fait des modes de gestion du conflit. Donc là, il y a dans les travaux, un des auteurs importants là-dedans, c'est Thomas, qui propose une articulation entre la coopération et le degré de satisfaction des acteurs. Entre ces deux axes, il définit comme des stratégies, une stratégie de collaboration, d'accommodation, d'évitement du conflit, le compromis ou la compétition. Donc il articule en fait différents types d'interactions entre les acteurs dans une idée de guider, si vous voulez, un groupe d'acteurs vers la meilleure stratégie en disant qu'il y a des choix à faire. Son optique, c'est par exemple pas de dire la collaboration, le compromis, c'est toujours la meilleure des solutions d'un contexte à l'autre, d'une situation à l'autre, selon qu'on veut défendre strictement ses propres intérêts ou si on veut avoir plutôt une défense de l'intérêt de l'ensemble, on peut adapter sa stratégie. Donc c'est vraiment... Puis il y a des revues spécialisées sur ces questions de gestion de conflit, mais vraiment en insistant sur la notion de gestion. Ensuite, mais là on reste quand même, il y a une ouverture dans Conflict Management sur l'idée que le conflit fait partie de l'interaction, on l'a déjà évoqué entre différents acteurs, et c'est pas forcément, on n'oppose pas forcément l'accord et le conflit. Il y a aussi des réflexions qui affirment plus clairement l'idée que le conflit fait partie d'une démarche, d'un processus décisionnel. Et moi j'aime bien, par exemple, les travaux de Chantal Mouffe, qui insiste beaucoup sur l'idée que le conflit fait partie, intimement partie des processus décisionnels, notamment en politique, et l'idée, ce serait de les domestiquer. Elle parle de domestication, au moins de l'hostilité qui fait partie du conflit. Ça veut dire que progressivement, dans cette approche, on donne au conflit de plus en plus le rôle de ressource. Ça veut dire que ça devient plus forcément un problème à résoudre, à éliminer, mais on lui donne aussi un côté positif qui alimente et peut permettre aux acteurs de dépasser un peu leur position initiale, puis améliorer peut-être aussi le projet lui-même. Et c'est bien dans cette orientation-là qu'on essaye d'aborder le conflit. Et ce que je dirais, c'est que c'est aussi important de noter que la question du conflit, on va, quand je parle de conflit ici, je ne fais pas la différence entre conflit, controverse. Enfin, il y a différentes terminologies qui sont utilisées des fois pour faire la distinction dans des distinctions dans l'intensité des conflits. Moi, je parle généralement de conflit et j'inclus le conflit le plus petit. Le plus petit, ça veut dire le conflit qu'on pourrait avoir nous-mêmes entre deux options, c'est-à-dire entre on a le choix entre faire ci ou faire ça, puis on est un peu déchiré entre ces deux choix possibles. Eh bien, ça fait le conflit intérieur, ce serait comme le plus petit des conflits. Puis après, il y aurait un continuum qui va jusqu'au conflit entre acteurs, groupes d'acteurs. En fait, l'idée, c'est de dire que décider en soi, c'est en fait résoudre un conflit, hein, comme je l'ai noté ici. Et puis, dans les travaux de Chantal Mouffe, on le trouve très clairement. Elle parle de cette idée que la décision, dans le sens fort de devoir décider dans l'indécidable, ce qui est la vraie décision, hein, eh bien, dans cette décision-là, il y a le conflit est implicite, en fait. Bon, j'introduis aussi, mais ça c'est peut-être un peu prématuré, mais cette idée que, en fait, on a des conflits qui peuvent être très petits, très infimes, et puis d'autres qui peuvent être très, très intenses et très importants. Donc il y aurait comme une gradation de l'intensité des conflits. Alors voilà pour ce positionnement. Donc qu'est-ce que j'entends par conflit, et puis aussi quelle est notre approche. Donc cette approche qui essaye de donner une place au conflit. L'idée, c'est, et moi je me rapproche de cette idée de domestiquer le conflit, c'est-à-dire ne pas l'éliminer, lui donner sa place, mais non plus ne pas lui permettre de bloquer l'interaction entre acteurs, faire que le processus avance malgré ou avec ou grâce aussi peut-être au conflit. Donc là, je vous présente en fait l'Observatoire de l'activité conflictuelle. Donc en fait, au sein du CRAD, on a la chance de bénéficier d'un observatoire de l'activité conflictuelle où sont décrits environ 2000 conflits entre 1965 et 2000. C'est des travaux qui ont été initiés et supportés par Paul Villeneuve à l'époque, où ça a été l'objet de la thèse de Catherine Trudel et ensuite Mathieu Pelletier. Donc c'est eux qui ont travaillé en grande partie avec Marius Thériault aussi sur la conception de l'observatoire, à la mise en place de cet observatoire. La source d'information, c'est des dossiers de presse, donc c'est des articles de presse du Soleil, qui est le quotidien de Québec, vous le savez sûrement. Et puis, dans cette base de données, on a un ensemble de variables. On sait quels sont les protagonistes, quels sont les enjeux du conflit, quelles actions sont entreprises, la durée et la localisation de chacun de ces conflits. Alors, je vais passer rapidement sur le modèle conceptuel, mais ce qu'il faut voir, c'est que tout ça, c'est organisé au sein d'un modèle conceptuel. Cet exercice modélisation, c'est souvent quand même... ça dépasse largement une réflexion technique, ça veut dire que ça nous oblige à dire qu'est-ce qu'on entend vraiment par conflit, qu'est-ce qu'on entend par événement, etc. C'est des choses qui sont plus importantes que simplement résoudre un problème technique, mais j'y reviendrai si vous souhaitez mieux comprendre comment est organisé cet observatoire. Mais quand on dit ça, ça veut dire c'est comment on observe aussi l'activité conflictuelle. Alors, un exemple des résultats qu'on peut obtenir, un des plus simples, où on positionne les conflits sur une carte. Ça, c'est les conflits. C'est une carte qui a été réalisée par Mathieu Pelletier, qui fait partie de sa thèse doctorale. Et ça, c'est les conflits qui ont eu lieu dans cette partie de territoire entre 1990 et 2000. Alors, qu'est-ce qu'on trouve dans cette base de données? Bien, on trouve, pour vous donner un peu une idée du contenu, donc chaque conflit est lié à des enjeux. Alors vous voyez que la très, une très ouais, une forte majorité des conflits concernent des questions d'aménagement de quartier, biens et espaces publics, qualité de vie, sécurité. Ce qu'il faut voir, c'est que la plupart des conflits, comme par exemple 44% des conflits, impliquent plus de trois enjeux. Donc, c'est des conflits qui sont quand même de nature assez complexe. Et puis, au plus, ça va jusqu'à 10 enjeux impliqués pour un conflit. Ouais, il y en a plus qu'un qu'on en 10, mais il n'y en a pas tant que ça. Mais donc, on a quand même une certaine complexité. Alors, voilà un peu l'objet. L'objet, le point de départ, c'est cette base de données, 2000 conflits qui sont décrits. Et l'idée maintenant, c'est de voir comment faire parler cette base de données. Il y a plusieurs manières de la faire parler, mais moi, ce qui m'a intéressé, c'était de se demander lesquels parmi ceux-ci sont les conflits les plus sévères, les plus graves. Là, on a tout de suite une question de vocabulaire qui apparaît, mais ce que je propose, c'est de dire les conflits les plus conflictuels, ce qui n'est pas très, pas très joli, mais notre idée, c'est bien de mesurer de la conflictualité. Pour ça, on va décrire trois variables principales, c'est la durée, l'intensité et la fréquence des conflits. Donc, concernant la durée des conflits, je pense que c'est assez facile de comprendre. Je ne vais pas vous surprendre si j'affirme qu'il y a des conflits qui sont plus ou moins longs. Sur cette carte-là, ça c'est une carte aussi qu'a réalisée Mathieu, parce qu'il a ces trois variables, il les a cartographiées sur sa région d'étude, donc l'ancienne ville de Québec, le territoire de la ville de Québec avant les fusions en fait. Et on voit qu'il y a des secteurs où les conflits sont plus ou moins longs, plus ou moins courts. Il y a tout un défi à cartographier ces conflits, mais ça ne va pas faire l'objet de cette présentation. On peut se dire aussi qu'une bonne manière de mesurer la durée d'un conflit, c'est de mesurer le temps entre le premier, en nombre de jours, entre le premier et le dernier article qui concerne ce conflit-là. C'est évidemment pas le temps réel du conflit, mais on peut admettre que c'est une approximation raisonnable de la durée du conflit. Ensuite, l'autre dimension, donc, c'est celle de la fréquence des conflits. C'est aussi assez facile de comprendre que selon les parties, eh bien, il y a plus ou moins de conflits. Il y a des lieux où les conflits sont plus fréquents que d'autres. Alors ça, c'est la carte de fréquence des conflits que Mathieu a réalisée dans le cadre de sa thèse. Je me suis trompé, ça ne devrait pas être ici. L'idée ici, c'est que la fréquence des conflits, c'est le nombre de conflits par unité spatiale. Ah, excusez-moi, je crois que c'est le titre. Je suis désolé, mais c'est avec mes copier-coller, je me suis trompé. Donc, cette carte-là, ce n'est pas celle de la fréquence, c'est celle de l'intensité des conflits. Il y a des conflits qui sont plus ou moins intenses. Donc, ce qu'on montre ici, c'est plutôt l'intensité. Ah, d'ailleurs, c'est noté dans la légende. Donc ici, il faudrait plutôt lire l'intensité des conflits, et des conflits plus ou moins intenses. Et Mathieu, lui, il a proposé de mesurer l'intensité avec un indice composite qui agrège le nombre d'articles, le nombre d'acteurs et d'autres paramètres, mais principalement ces deux, en disant que plus il y a d'acteurs et plus il y a d'articles sur un conflit, plus ce conflit-là est considéré comme intense. Alors, j'en arrive à la fréquence cette fois. Donc, il y a des conflits plus ou moins fréquents. Ah, je suis désolé, mais vraiment, j'ai fait des mélanges avec mes questions, donc oubliez ça. Ouais, Bon, je suis désolé, mais là, c'est un peu la confusion sur mes variables. Donc, je vais passer ça, et puis on essaiera de s'en tirer quand même. Bien tourné. Je vais expliquer sans diapositive, hein. Ça va aussi. Ouais. Je pense que j'ai effacé les mauvaises et gardé celles que... Non, j'ai effacé les bonnes et gardé celles que je voulais changer. Bon, tant pis. Alors, je vais être obligé de vous expliquer ça sans diapositive, hein. Donc, concernant la fréquence des conflits, en fait, ce que je voulais amener, c'est qu'il y a deux manières de mesurer la fréquence des conflits. Premièrement, on peut regarder pour une unité de lieu, un espace. En l'occurrence, dans la thèse de Mathieu, c'était des mailles. Il a couvert le territoire de mailles régulières. On compte simplement combien il y a de conflits dedans. Et ça, ça nous donne la fréquence des conflits. Mais ça, c'est une fréquence spatiale, en fait, de conflits. Une autre mesure de la fréquence, c'est plutôt que de prendre une unité de lieu puis compter combien il y a de conflits, on prend une unité de temps. On prend une période, un mois, par exemple, et on compte combien il y a de conflits dans ce mois-là. Et là, on a une notion de fréquence temporelle de conflit. Donc, il y a deux natures de fréquence, la fréquence dans l'espace et la fréquence dans le temps. Voilà, c'était ça qu'il fallait tenir compte. Alors ici, en fait, cette diapositive, elle devrait parler d'intensité de conflit. Donc, comme je disais, Mathieu, lui, il a mesuré l'intensité des conflits en comptant le nombre d'acteurs, le nombre d'articles, par exemple, qui sont impliqués dans le conflit. Mais dans d'autres travaux qui concernent des conflits, mais qui ne sont pas des conflits d'aménagement du territoire, où on a des émeutes, des manifestations, eh bien, ça peut être des mesures de l'intensité. Et notamment, on trouve dans la littérature une mesure de l'intensité des conflits comme étant le nombre de morts. Parce qu'évidemment, lorsqu'on cherche qu'est-ce qui se fait comme recherche sur les conflits, on tombe beaucoup sur les conflits armés. Une autre manière de mesurer l'intensité des conflits, c'est la proposition qu'a suivi Luca Michalski dans sa thèse, son mémoire de recherche, eh bien, c'est d'aller chercher dans le vocabulaire des acteurs s'il y a l'utilisation plus ou moins fréquente d'un vocabulaire agressif. Donc ça pourrait être aussi une mesure de l'intensité du conflit. Mais dans la proposition qu'on va suivre à partir de maintenant, l'idée c'est de se baser sur la surface des articles. Donc là, on verra, et je serai obligé d'y revenir, que cette mesure de l'intensité des conflits, c'est un enjeu très, très important, très délicat. Mais nous, on s'est ramené dans ce contexte à une proposition plus simple que celle qu'avait proposée, par exemple, Mathieu en faisant un indice composite. On s'est simplement dit, plus les articles qui parlent du conflit sont longs, en termes de... Nous, on a calculé... Mathieu avait mesuré la surface de l'article, mais on pourrait compter le nombre de mots qui parlent de l'article. Plus ils sont longs, ben plus le conflit est intense. Voilà pour cette approximation de la notion d'intensité de conflit. Alors, concernant cette relation entre durée du processus et intensité de conflit, alors, le conflit pour nous, fait partie du processus décisionnel. Hein, c'est pour ça qu'en haut, vous trouvez cette barre qui signifie le processus décisionnel. Alors, on peut imaginer un processus décisionnel où, au début, ça commence par un conflit qui est assez intense. Donc, par exemple, on aurait une certaine production de textes qui parlent du conflit. Ensuite, le conflit se calme, on n'en parle plus ou presque plus du tout. Et après, ça reprend et après, ça rebaisse. Hein. Donc, on aurait au sein du processus, au sein de la durée du processus, une fluctuation de cette intensité du conflit. Alors, l'idée, c'est de dire, au sein d'un processus décisionnel, on a des phases de conflit. On peut dire, ça, c'est un conflit, et ça, c'est un conflit. OK ? Donc, le conflit serait intégré comme ça au sein du processus décisionnel. Ce qui est important dans cette figure-là, ce que je veux mettre en avant, c'est que de dire que le conflit au sein du processus démarre là ou arrête là, ce n'est pas aussi simple qu'on pourrait le penser. C'est-à-dire, c'est dire qu'un conflit débute ou termine à un certain moment, c'est toujours une interprétation en fait, de celui qui observe le processus décisionnel ou le conflit.
Pourquoi tu fais deux conflits? Ça peut être exactement la même chose, mais le jeu a été calmé pendant notre période pour d'autres raisons.
C'est ça. Mais c'est ça que je veux mettre en avant. C'est-à-dire que quand on observe une activité conflictuelle, eh bien, de dire est-ce que ça c'est le même conflit qui renaît ou c'est un autre conflit, on ne peut pas trancher ça objectivement. C'est-à-dire c'est une interprétation de celui qui observe le conflit. On peut mettre des règles, hein, mais il y a quand même une certaine difficulté à définir si c'est vraiment deux conflits ou en fait le même qui ressurgit. Donc, c'est ça que je veux mettre en avant. Ce qu'il faut voir, puisqu'on va aller vers une analogie vers les pluies, puis ceux qui sont peut-être familiers avec ces questions-là, eh ben là, on a déjà un graphique qui ressemble beaucoup au graphique qui est utilisé par les hydrologues. Ben oui, ils ont le même problème. C'est-à-dire que... Il arrive souvent qu'entre deux pluies, il y a une période qui est de où il pleut mais presque pas. Puis alors, savoir est-ce que c'est la même pluie est-ce que je dois considérer ça comme une seule pluie ou bien qu'on coupe et je dis que c'est deux pluies, ben ils ont ce problème-là aussi. 10 minutes, c'est vrai?
Oui.
Bon, d'accord. Je pense que je vais dépasser un peu. Bon. Non, c'est pas de ta faute, hein.
C'est de la mienne.
Bon, ce que je veux insister aussi sur le fait que, en fait, le conflit, il va pas s'arrêter quand on prend une décision, qu'entre la décision et l'action, il peut y de nouveau ressurgir de la conflictualité entre les acteurs. Donc tout ça, c'est pas des choses qui rentrent facilement dans des petites boîtes, même si au fond, pour après l'analyser, on va être un peu obligé de le contraindre à rentrer dans cette manière de représenter les choses. Et puis, un processus décisionnel, en général, il implique plusieurs processus. C'est-à-dire qu'au sein d'un processus pour dire, bon, on va faire un nouveau développement, eh bien, on va prendre plusieurs petites décisions qui chacune peuvent être considérées comme étant un processus lui-même et impliquer ou pas des conflits. Donc, au sein d'un processus, on a des sous-processus. Hein. Donc, on décompose, on coupe dans des choses qui se coupent pas si facilement que ça. Oh. Bon, moi, ils insistent, là, c'est un vrai cauchemar. Bon, alors, peut-être que j'avais simplement mal placé ces diapositives. Donc, les conflits plus ou moins fréquents, les nombres de conflits par unité spatiale. Ça, c'est la fréquence spatiale des conflits. Et puis, voilà, vous voyez enfin une présentation. Donc, il faudra que je mette de l'ordre, on est transparent. Mais les fréquences temporelles des conflits, donc des conflits plus ou moins fréquents, mais cette fois dans le temps, par unité de temps. Et ça, c'est un graphique, justement. C'est pas un graphique inventé, c'est effectivement le nombre de conflits par unité de temps pour la période 1965 à 2005 dans deux secteurs, Saint-Jean, Vieux-Québec, Montcalm et Saint-Roch-Saint-Sauveur. Alors on voit vraiment qu'il y a des dynamiques, hein, des périodes où il y en a plus ou où il y en a moins. Donc j'en arrive, je pense quand même, même si je me suis un peu embrouillé avec mes intensités fréquences, mais maintenant on comprend quand même assez bien qu'on peut réaliser un schéma comme celui-là, où on a sur l'axe horizontal des durées de conflit, et puis sur l'axe vertical des intensités. Les intensités, on les mesure comme des centimètres carrés d'articles consacrés au conflit. Alors, on voit qu'il y a beaucoup, beaucoup de conflits qui sont courts et peu intenses, puis quelques-uns qui sont très longs, puis quelques-uns qui sont plus intenses. Et ça, qu'est-ce que ça veut dire? Comment on associe ça à la notion de conflictualité? Eh bien, ce qu'on peut se dire, c'est que si on se déplace dans cette direction-là, donc on fixe une intensité, et puis on a des conflits de plus en plus courts, donc on a, si vous voulez, un conflit qui a été couvert en quelque chose comme un peu plus de 2000 cm², c'est-à-dire il a produit 2000 cm² d'articles le concernant, ben dans un temps, plus le temps qui a permis de faire cette couverture de presse est court, plus la conflictualité du conflit ben, est élevée, plus le niveau de conflictualité est élevé. Donc la notion de conflictualité, ce n'est pas la même que l'intensité, c'est une combinaison de ces deux notions. De même, si on a un conflit d'une certaine durée, eh bien plus il y a eu d'articles qui en parlent, plus le niveau de conflictualité est élevé. Okay? Donc voilà comment on peut définir cette question de conflictualité. Ça veut dire qu'on pourrait on pourrait se dire, et ça c'est une schématisation, que le niveau de conflictualité pour ceux-ci est plutôt faible, puisque c'est des conflits courts qui ont fait, qui n'ont pas été très médiatisés. Et puis, si on a des conflits qui sont très courts et très médiatisés, ben, on a un niveau de conflictualité qui est extrême, par exemple. Donc, ça vous donne une idée des intuitions qu'on peut avoir, et puis ça définit ces notions ces trois notions, durée, intensité et conflictualité. Ce qu'il faut voir, c'est que quand je parle de conflictualité ici, en fait, je parle de fréquence temporelle, de rareté, en fait, du conflit. Donc, c'est ça qui va être le guide de cette mesure de la conflictualité. C'est-à-dire que la conflictualité est mesurée comme une rareté, soit une faible fréquence de cette combinaison durée-intensité. Donc, des cas très rares où, par exemple, on a des conflits très courts qui ont été couverts très fortement médiatiquement. Et pour mesurer cette fréquence temporelle, eh bien, on va pouvoir aller reprendre la méthodologie qui a été développée par les hydrologues pour mesurer la rareté des pluies, en fait. Hein. Eux, ils ont développé toute une technologie d'analyse statistique pour mesurer la rareté des pluies. Puis là, je les reprends pour mesurer la rareté des conflits. Et j'associe cette notion de rareté à celle de conflictualité. Donc, on va dire que la conflictualité se mesure comme un temps de retour. On parle de notion de temps de retour. Pour les pluies, c'est-à-dire que le temps quand on dit qu'une pluie a un temps de retour de 100 ans, c'est une pluie comme il en arrive statistiquement tous les 100 ans. Et bien, on va reprendre cette notion-là pour les conflits. On va dire ce conflit, c'est un conflit comme il en arrive tous les 100 ans ou tous les 50 ans. Donc, on va essayer de mesurer cette probabilité statistique de récurrence de ce conflit-là. Elle a étonné, Claude. Ou endormi.
Ben, c'est parce qu'elle assume que c'est forcément cyclique et
que c'est récurrent.
Que c'est récurrent. C'est... Les pluies, oui, mais les conflits.
Ben, en fait, ce qu'on assume, c'est qu'il y a un historique des conflits. C'est-à-dire que ce qu'on assume, c'est qu'en regardant ce qui s'est passé sur 40 ans, ça nous dit quelque chose de ce qui va se passer. Parce que ce qu'on fait dans l'analyse de récurrence, c'est qu'on analyse l'historique des conflits, puis on en tire des règles sur la fréquence d'émergence des conflits. Alors techniquement, là je vais passer vite, parce que d'une part j'ai plus de temps, puis d'autre part c'est très technique. Comment on procède? Eh bien, alors on prend notre échantillon, donc ça veut dire les 2000 conflits, on prend les 2000 conflits, on les subdivise en sous-échantillons. Chaque sujet échantillon a une durée déterminée. Donc, par exemple, ça, c'est les conflits entre, je ne me souviens pas, mais quelque chose comme entre 0 et 50 jours, puis ceci entre 50 et 100 jours, etc. Donc, on les fragmente par durée. Pour chacune des durées, on va ajuster une fonction statistique. Et puis, lorsqu'on aura ajusté des fonctions statistiques pour chacun de ces sous-échantillons, on peut généraliser ça, puis en fait avoir une loi globale qui nous permet de mesurer cette récurrence pour chaque combinaison d'intensité et de durée. Alors ça, c'est les sous-échantillons. Vous voyez, le sous-échantillon 1, c'est les durées entre 1 jour et 4 jours seulement, parce qu'en fait, on a énormément de conflits très très courts dans cette base de données. Et en fait, la règle qu'on a adoptée, c'est qu'on a fait en fait une dizaine de sous-échantillons, puis on essayait d'avoir à peu près toujours une centaine de conflits par sous-échantillon. La loi qu'on a appliquée, c'est la loi de Gumbel. On va passer ça vite. Le grand avantage, pourquoi cette loi, elle est souvent appliquée, c'est qu'elle se linéarise. Bon. Ce que ça nous montre ici, c'est qu'on a des très très beaux taux d'ajustement, c'est-à-dire qu'on arrive à expliquer vraiment bien la distribution de l'intensité pour ces conflits au sein d'un sous-échantillon. Alors, ici on a les sous-échantillons avec les durées moyennes, donc la moyenne des durées pour les conflits dans le sous-échantillon, puis ça c'est les paramètres d'ajustement de cette droite, puis ça c'est les coefficients de détermination. Et quand on a réussi à obtenir ces résultats-là, ben on était assez content, parce que cette idée qu'on pourrait traiter des conflits comme des pluies, ben ça semblait marcher. Ensuite, donc, on doit rassembler ces fonctions d'ajustement dans une seule. Voilà le système d'équation qu'on a utilisé. On doit, en fait, les paramètres que vous avez vus tout à l'heure, on va les ajuster sur la durée cette fois. Donc ici, on intègre la durée. Et puis, on a chaque point ici, c'est l'un de ces sous-échantillons. Donc, on a 12 points sur notre droite. Ça fait pas énorme, mais comme on a aussi des bons taux d'ajustement, ben, ça veut dire que notre modèle global, là, il tient bien la route quand même. Alors voilà pour la partie la plus technique, et évidemment, j'ai passé ça de manière assez superficielle, mais ça nous permet de, si on retrouve nos... Chaque point étant un conflit, ben ça nous permet de calculer des courbes qui, dans le domaine, s'appellent des courbes IDF, hein, pour intensité, durée, fréquence. Ça nous permet de dire, par exemple, cette courbe-là, ça, c'est la courbe du temps de retour sans temps. C'est-à-dire qu'un conflit qui est au-dessus, comme celui-là, c'est un conflit comme il en arrive beaucoup. Son taux de retour c'est nettement supérieur à 100 ans. Ce qu'on voit, c'est qu'il y a une très grande partie des conflits qui sont avec des très petits temps de retour. Donc, si vous voulez, on avait une espèce de bruit, là, un nuage de conflits qu'on ne savait pas tellement traiter, puis maintenant on est capable de le décliner, puis faire de la distinction entre ceux qui sont très rares, puis ceux qui sont très courants, en fait. Alors, qu'est-ce que ça nous donne ces résultats-là? Donc, des temps de retour plus de 100 ans, on en a 6. Le plus, c'est 800 et quelques. Hein, temps de retour 800 ans. Mais ce que je veux dire là-dessus, c'est que...
Comment tu peux calculer des temps de retour de 100 ans sur une base de données de 35 ans? J'arrive pas. Il y a quelque chose qui m'échappe.
Oui, mais ça c'est facile. En fait. On le fait pour les pluies. Oui, on le fait pour les pluies. Parce qu'on a 100 ans de pluie, puis on a des temps de retour on peut avoir des temps de retour de 1000 ans. C'est-à-dire que sur la base de la période, on fait de l'extrapolation quand même. Hein. Sur la base de la période qu'on observe, on est capable de dire, d'ajuster des fréquences. Donc ça va. Mais ce qu'il faut voir, c'est que moi je veux bien, c'est important de préciser que mon idée, c'est pas de dire que ce conflit, c'est un temps de retour de 896 ans. Ce qui est important pour moi, c'est de dire que ce conflit, c'est une situation extrême. C'est ça qui est important. C'est pas de savoir d'associer une valeur. Pour les hydrologues, oui, eux, ils veulent savoir ça parce qu'après, souvent, ça détermine qui c'est qui va payer les dégâts de l'inondation qui sont créés par la pluie. Mais nous, on rentre pas dans ce monde-là. Par contre, nous, on est capable, avec cette approche-là, de dire, ben, on a 6 conflits-là qui semblent vraiment, vraiment particuliers. Hein. On en a 11 qui sont entre 50 ans et plus. Puis ce que vous pouvez voir, c'est que... 2 ans et plus, il y en a 414. Hein. Ce qui veut dire que sur 2095 conflits, il y en a seulement 414 qui n'ont pas un temps de retour de 1 an. Donc déjà, dans cet énorme échantillon de conflits, on est capable de... Si on veut s'intéresser à des dynamiques particulières, on est capable d'éliminer une très grande part des conflits. Quand je dis les éliminer, c'est si on veut aller chercher les extrêmes. Hein. Mais on peut cibler peut-être 50 conflits qui ont des dynamiques particulières, puis après aller s'intéresser aux dynamiques qui ont eu lieu dans ces conflits-là. Bon, ça c'est une représentation graphique de ces proportions-là. Ça revient un peu au même. L'idée c'est qu'on va cibler quand même une partie des conflits. Alors voilà, ça c'est les résultats qu'on obtient. Comme je disais, 895, le temps de retour maximal. Vous voyez, ça diminue vraiment très très vite quand même vers des valeurs qui sont beaucoup plus faibles. Hein. Quelques dizaines d'années. Alors, bon, autre résultat possible qu'on peut faire, qu'on peut obtenir avec ces analyses-là, c'est que si on prend, là j'ai pris les 6 conflits qui ont été les plus médiatisés. Donc les plus médiatisés, ça veut dire que le nombre d'articles est le plus important. Alors je prends les 6 conflits qui sont les plus médiatisés, et puis ensuite je regarde ce qu'on a appelé ici la trajectoire des conflits. C'est-à-dire que ce conflit-là, par exemple, le 1323, j'ai mis les noms des conflits, ouais, qui concerne la gare intermodale, eh bien, lui... On voit qu'il a eu, il a démarré comme un conflit un peu banal, puis tout à coup, il a eu une forte croissance, après, de nouveau un peu plus calme, après une forte croissance, puis après, il s'est stabilisé un peu. On voit que d'autres, eux, ils ont des temps de retour très élevés, hein, plus de 100 ans, puis qu'ils ont était vraiment comme en ligne droite. C'est-à-dire qu'il n'y a pas des phases comme dans celui-là, des phases où c'est comme plus... le niveau de conflictualité pas très fort, puis tout à coup des changements. Hein. Donc il y a des, on voit des dynamiques qui sont différentes. Un qui m'a intéressé, même si on a vraiment fait des analyses très superficielles pour l'instant de ces résultats-là, mais si on prend le 929, celui-là, prolongement de l'autoroute du Vallon Nord, on voit que c'est un conflit qui a duré longtemps, hein, c'est un conflit qui est quand même long, mais qui s'est comme ajusté, bon, par hasard en fait, sur la valeur de 5 ans, mais il suit une de ces courbes. C'est-à-dire, c'est comme si la dynamique, elle est comme régulière. Alors peut-être, et ça je trouve que ça rejoint quand même la maîtrise de Guillaume Gagné, hein, qui avait fait sous la supervision de Paul Villeneuve, où on voyait qu'il y avait eu un mode de régulation entre les acteurs impliqués dans le conflit assez original à l'époque, innovant, et peut-être qu'on peut associer ça au fait que oui, le conflit a duré, ça a pris du temps à ce qu'on se mette d'accord, mais on n'a pas eu une de ces trajectoires... Comme les conflits 1919, etc. Donc, cette idée de suivre les trajectoires des conflits, ça, je pense que c'est des outils qui sont assez importants. On peut aussi cibler, on peut aller voir, bah, tiens, qu'est-ce qui s'est passé en telle date et telle date ? Pourquoi, tout à coup, la dynamique semble être complètement modifiée ? On a aussi, comme piste de réflexion, c'est Mathieu qui l'a présenté dans un colloque, c'était à Rio, eh bien, l'idée c'est de se dire, ben, on prend une période, puis on regarde comment la conflictualité évolue dans cette période-là. Bon, alors, on a fait des tests. Pour l'instant, je pense qu'en point de vue méthodologique, en fait, c'est pas si simple de cumuler des conflictualités sur des pas de temps. Mais nos premiers tests, en tout cas, bon, ils nous ont mis en évidence clairement les périodes d'élection. C'est-à-dire, à chaque fois qu'il y a des périodes d'élection, pouf, la conflictualité remonte. Mais il s'agirait probablement d'aller un peu plus loin. Mais l'idée, c'est de montrer un peu comment ce résultat-là peut être valorisé. Donc, j'en arrive aux conclusions. J'espère que je n'ai pas trop débordé. Mais notre proposition consiste à apporter à l'étude de la dynamique des conflits une échelle de mesure qui nous permet de mesurer ces niveaux de conflit qu'on a appelés conflictualité. Cette échelle de mesure, elle permet de distinguer les conflits qui sont quotidiens. Parce que, en fait, l'idée, c'est que dans la dynamique d'une ville, eh bien, il y a des conflits qui émergent. Il y a des conflits qui émergent tout le temps. Puis, notre idée, c'est de ne pas les problématiser et d'être capable de dire, dans cette dynamique de conflit, qu'est-ce qui fait que des fois, ça dérape ou ça va vers une dynamique complètement différente. Mais pour ça, il faut un outil, justement, cet outil qui permet... De les distinguer. Puis ça, c'est notre proposition, se base sur cette évaluation de la conflictualité. Ça permettra ensuite de comparer les dynamiques des conflits selon leur conflictualité. On peut prendre soit les extrêmes puis regarder ceux-ci seulement, soit prendre une partie des conflits extrêmes et une partie des conflits qui sont pas extrêmes sur un même type d'objet. Par exemple, on prend un développement résidentiel, on cherche ceux qui sont avec un niveau de conflictualité très intense, ceux qui ont un niveau de conflictualité faible. Et puis, on va regarder, on va voir les acteurs, on va plus finement dans le conflit, puis on essaye de dire, est-ce qu'on est capable d'expliquer ces différences observées dans la conflictualité. Donc, s'associer aussi à des approches de qualitatives qui vont plus en profondeur dans ces dynamiques de conflit. Perspective. Alors, il nous reste à travailler sur la validation de cette méthodologie. La méthodologie, on l'a testée avec plein de paramètres. Là, je vous ai montré la version un peu finale qui marche bien. Mais on a fait plein de tests, puis je dirais qu'elle est stable. Ce qui fait qu'on a confiance sur le fait que ce qu'on essaie de mesurer, on le mesure bien. Mais maintenant, il s'agirait de dire, est-ce que... par exemple, les conflits qu'on juge comme extrêmes avec cette méthode, ils apparaissent comme étant extrêmes aussi dans le discours des acteurs. Si on les rencontre, est-ce qu'ils nous disent, ben non, celui-là, je trouve qu'il était vraiment pas terrible. Alors là, il faudra remettre en question notre approche. Mais ça, c'est une étape à venir. Mesure d'intensité à renforcer, c'est-à-dire l'intensité, on la mesure avec la surface totale des articles, c'est quand même une réduction forte, même si elle a l'avantage de marcher. Ben, il faudrait voir si d'autres approche de la mesure de l'intensité serait plus adéquate. J'ai abordé la question du fait que dire ce conflit débute ici, s'arrête ici, eh bien, c'est quelque chose qu'il faut aussi préciser, puis qui peut avoir des conséquences quand même sur le reste de l'évaluation. Après, on peut s'intéresser à réaliser des analyses spatiales, donc regarder quels sont les lieux où la conflictualité est la plus forte. Est-ce qu'on trouve des lieux où cette conflictualité est la plus forte? Est-ce qu'il y a des périodes où la conflictualité est la plus forte? Bon, ensuite, on peut aller vers encore d'autres perspectives, hein, de type paramétrisation régionale, c'est-à-dire si on fait le même type d'analyse à Montréal, avec les bases de données de Montréal, on pourrait regarder est-ce que on observe des différences dans les dynamiques de conflictualité, c'est-à-dire ce qui revient à dire dans la paramétrisation de notre modèle, puis est-ce qu'on est capable d'expliquer ces différences de paramétrisation. Mais ce que je dirais là, c'est qu'on rentre dans un peu tout ce qui a été fait dans la question de l'hydrologie, où ils paramétrisent ce genre de modèle par région, par système climatique et des choses comme ça. Donc on pourrait continuer l'analogie, puis parler de climat urbain, puis des choses comme ça. Pour l'instant, on n'en est pas encore là, mais c'est des pistes qui peuvent être envisagées. Moi, ce qui m'intéresserait avec les André Thor et Thierry Kira, par exemple, de AgroParisTech, qui ont des bases de données sur les conflits, ben, voir si on peut reproduire ces approches-là sur leurs bases de données à eux. Voilà pour cette présentation. Désolé d'avoir fait un peu long. Oui.
Oui. Lorsqu'on prend les catégories et les temps de retour, on peut catégoriser les conflits de cette façon-là, il y avait 6 points, tout ça. Est-ce que vous avez pu observer une certaine constante entre les conflits d'une certaine catégorie?
Par exemple, une
typologie quelconque, genre, je ne sais pas, ce type de conflit-là, le maire est toujours impliqué, ou je ne sais pas, avez-vous trouvé quelque chose pour catégoriser ces...
Moi, je dirais que ça, c'est l'étape qui va venir.
Ah, okay.
Mais pour l'instant, non. Pour l'instant, on a vraiment produit ces classifications et il reste à faire ça. Et je dirais que là, on rentre, ta question, elle rentre dans, justement, maintenant, c'est-à-dire qu'une fois que l'outil est validé, puis ça, ce serait un peu le premier point, une fois que l'outil est validé, exploiter l'outil pour mieux comprendre les dynamiques de conflit, c'est la ligne, hein, c'est-à-dire on ne fait pas ça pour faire un outil, puis montrer que c'est joli de faire un outil. On le fait vraiment pour mieux comprendre les dynamiques de conflit, mais on n'en est pas encore là. Actuellement, il y a une étudiante qui fait un essai avec moi sur la mesure d'intensité des conflits en essayant de regarder plus finement le vocabulaire, un peu comme l'avait fait Luca, mais aller plus formellement dans cette analyse du discours, puis voir si on arrive à arrimer les deux. Et puis j'ai aussi une étudiante suisse qui travaille sur ces questions d'analyse spatiale, mais ça veut dire en fait notre question c'est que si on prend un quartier où il y a eu plusieurs conflits avec plusieurs niveaux de conflictualité, est-ce qu'on a le droit de faire la somme? C'est-à-dire, on a des temps de retour, hein. Par exemple 50 ans, on prendrait un quartier où il y a 3 conflits, un 50 ans, un 20 ans, un 10 ans, est-ce qu'on peut dire que la conflictualité du quartier, c'est 80? C'est pas si simple. En fait, je pense que non. Je pense qu'on ne peut pas. Mais alors, comment on fait pour spatialiser cette conflictualité? Donc ça, c'est les questions qu'elle se pose. Mais alors, donc, c'est pour dire qu'on est vraiment... Moi, j'ai l'impression qu'on a mis un... pas dans une approche qui va probablement, en tout cas on l'espère, se déployer vers des choses qui sont intéressantes, mais on est encore au stade de dire ben voilà l'outil, puis on verra bien ce qu'il nous dit.
J'avais une autre question. Mm-hmm. C'est concernant l'analyse spatiale. On a présenté des cartes de fréquence.
Mm-hmm.
Je vois difficilement l'utilité de ça. Moi, je vois là-dedans une carte de densité ou de structure urbaine, là. Pour faire cette analyse-là de la spatialité des conflits, ça prend un dénominateur, ça prend quelque chose pour mettre ça en perspective. Qu'est-ce que vous comptez faire?
Mais alors, si je prends par exemple, je pense que c'est des bons. Parce que ce que je dirais là, c'est, très sincèrement, c'est que un des enjeux, c'est de démontrer ce qu'apporte cette mesure de la conflictualité par rapport à ce qui se faisait déjà. Bon, on peut le démontrer en montrant qu'on mesure autre chose. Hein, et ça, on peut le démontrer en termes statistiques, là. D'ailleurs, j'aurais pu attirer votre attention là-dessus, puis on peut y revenir. Mais là, dans la thèse de Mathieu, lui, il a fait des cartes de fréquence de conflit, comme ici. Hein, donc, on voit que, par exemple, les conflits sont plus fréquents dans le centre-ville. Hein. Oui, c'est ça. Mais il a tenu compte quand même de cette question-là. Puis après, il a pu montrer que, par exemple, associer ça à des variables sociales, comme le fait que dans des quartiers où on avait des populations, par exemple, qui étaient pas particulièrement riches, mais plutôt éduquées, hein, des combinaisons comme ça, la fréquence de conflits était plus élevée. Et il a associé ce type d'analyse avec la fréquence, mais aussi avec l'intensité, avec la durée. C'est-à-dire qu'il est aussi capable, il a aussi, parmi ses résultats, il montre que dans certains quartiers, et notamment les quartiers plus éloignés du centre, les conflits ont tendance à être moins intenses et plus longs. Hein? Donc, c'est des choses qui ressortaient, puis qui nous apprennent des choses sur les conflits. On a fait des hypothèses là-dessus, comme le fait qu'il y avait comme une espèce de culture de la conflictualité dans les quartiers centraux, c'est-à-dire que, parce qu'il l'associe aussi, par exemple, la fréquence des conflits au nombre d'associations présentes dans le quartier. Hein, plus c'est un quartier où il trouvait des associations en grand nombre, bien plus les conflits avaient tendance à être intenses et courts. Hein, ce qui nous laisse supposer que dans ces quartiers-là, les acteurs se mobilisent vite, facilement, et puis, ils sont capables d'aller avoir soit vite des résultats, et le conflit, c'est pour ça qu'il est court, soit lâcher le conflit, parce qu'ils savent que ça ne sert à rien d'insister, ça ne marchera pas. Donc, ils ont comme une stratégie d'implication dans le conflit qui serait différente des quartiers où il y a moins d'associations, par exemple. Mais attendez, je sais pas, merci pour les questions, mais ce que je voulais aller sur le fait qu'ici, chaque conflit, là, on a pris, si vous voulez, ce n'est pas le cas parce qu'il n'a pris que 10 ans, mais pour faire ce type de carte, ce serait un peu comme s'il avait pris les 2000 conflits puis il les compte comme ça. Sauf que dedans, là-dedans, on a des conflits qui ont un jour, et puis on a des conflits qui ont des longues durées, puis on a des conflits qui sont un temps, on a des conflits de nature très différente. Hein. L'outil qu'on met à disposition, ça nous permettrait de faire des cartes comme celle-ci, mais en retenant que les conflits avec un niveau de conflictualité élevé. Puis peut-être faire une autre carte avec les conflits qui ont un niveau de conflictualité faible, puis regarder si ces deux cartes s'ajustent. Donc on a vraiment une dimension haute qui arrive sur l'analyse. Est-ce que, oui, vous avez une question?
Oui, peut-être. Okay. Bon, j'ai vu dans votre analyse, dans le cadre méthodologique, que vous vouliez questionner les indicateurs, en fait, les indicateurs de conflit. Mais c'est peut-être que, dépendamment des quartiers, c'est pas tout le monde qui a la même facilité à accéder aux médias. C'est pas non plus tous les conflits qui intéressent autant les médias.
Ouais.
Un conflit sur un zonage, ça va peut-être faire un article, même si c'est un conflit majeur.
Ouais.
Mais un conflit qui est un peu plus apparent, ben, ça pourrait revenir un peu plus attractif pour un média.
Ouais.
Ça me semble vraiment important, en fait, de le questionner. Puis aussi, Le Soleil va peut-être... Le Soleil est un journal, mais il est peut-être orienté aussi. Hein.
Mm-hmm. Mais ça, cette question du fait qu'on observe les conflits par l'activité médiatique, je dirais qu'on a deux... Il y a deux aspects là-dedans. Premièrement, il y a un aspect lié au fait que on peut considérer, même si je sais que c'est discutable, et là, on est toujours dans des domaines où il faut comme prendre position, en fait. Hein. Mais... Pour moi, quand même, une bonne partie de l'activité conflictuelle, et pour avoir été parfois du côté de ceux qui cherchent à créer le conflit, hein, en tant que militant d'une association quelconque, l'idée, c'est pas d'en parler là, mais la stratégie, c'est de médiatiser. Ça veut dire, pour beaucoup, l'implication des acteurs dans les conflits, c'est d'arriver sur la scène médiatique, parce que c'est là que le conflit devient, fait partie des débats, des discussions. C'est comme ça qu'on peut avoir on peut atteindre un politique ou faire que la question qu'on porte, elle devient... Donc, en fait, c'est vrai que le média, il va comme étouffer une partie des choses, mais d'un autre côté, d'observer les conflits qui sont médiatisés, c'est aussi observer les conflits qui participent à... C'est sûr qu'on en loupe, c'est sûr que c'est une règle un peu brutale, mais ça fait partie de la dynamique. Alors ça, c'est un argument. L'autre argument, c'est qu'on n'a pas d'autres outils qui nous permettent de suivre avec une telle richesse la diversité et le nombre de conflits sur des périodes aussi longues. Donc, il n'y a pas d'alternative pour appliquer ce type d'approche. On peut aller chercher d'autres outils d'observation du conflit, mais pour en observer moins, pour avoir moins d'exhaustivité. Donc, puis bon, enfin, il y a eu des études qui traitent de la question du biais sur... parce qu'on n'est pas les seuls à observer le conflit par l'activité médiatique. Il y a eu des études qui ont essayé de mesurer ce biais. Le biais existe, mais ce qui ressort d'une bonne partie de la communauté des chercheurs dans cette direction-là, c'est que ce biais n'empêche pas d'exploiter cette source. Ça veut dire ne fait pas qu'on doit se dire on ne peut pas utiliser les médias pour analyser les conflits. Donc, on a une idée de l'importance de ce biais, mais on l'assume un peu. Oui.
Et justement, pour continuer, est-ce que c'est pas intéressant cet outil-là pour aller chercher des conflits qui seraient les moins biaisés, les plus silencieux, les moins extrêmes? Parce que si on revient à cette intensité dans les quartiers centraux, puis à l'idée de mouf, de domestiquer, c'est-à-dire de provoquer une sorte de régulation naturelle par l'éclosion du conflit, de la reconnaissance du conflit, mais peut-être qu'à ce moment-là, la courbe là, que tu montrais nous amènerait à voir que...
Les trajectoires de conflit,
par exemple, nous amènerait à justement porter un regard un peu plus porté sur les conflits qui ressortent moins par leur extrémisme et donc qui pourraient spatialement être moins centraux. Qui ferait peut-être moins l'objet d'articles de longueur parce que justement la régulation se fait autrement.
Ben, en tout cas, nous, on s'intéresse beaucoup à ces questions de. C'est-à-dire que, en fait, l'objet d'étude, pour nous, c'est formellement, même si j'utilise le terme de conflit, c'est pas le conflit. Hein. C'est le processus décisionnel et c'est la conflictualité dans les processus décisionnels. Alors, c'est vrai qu'en utilisant ces supports, notamment les médias, en fait, on va chercher des conflits qui sont déjà très conflictuels et ça nous fait qu'on n'observe pas du tout les processus décisionnels qui se passent bien. On laisse. Et alors là, on s'intéresse maintenant aux processus décisionnels qui ne sont pas conflictuels ou qui le sont, mais pas au point qu'il y a un article de presse, pas au point qu'il y a une manifestation. Mais moi, ce qui me semblerait intéressant, c'est ensuite de les comparer. C'est-à-dire de comparer. En gardant un même objet, peut-être même un même type de lieu, un même type de quartier. On prendrait un quartier périphérique, un même type d'aménagement d'infrastructure, par exemple, puis on aurait des conflits avec des dynamiques comme celle-ci, puis d'autres beaucoup plus faibles en termes de conflictualité, puis se dire, est-ce qu'on est capable de faire émerger des différences dans la dynamique, dans le rapport aux acteurs, dans le fait qu'il y a eu de la consultation, dans l'attitude des acteurs impliqués, ces choses-là. Geneviève, tu as une question?
Moi, je me demandais un peu par rapport à l'objet même du conflit. Et là, il y avait la carte ou l'intensité dans les quartiers centraux. Mais je me dis, il y a certains objets qui tu sais, comme des infrastructures qui sont situées dans les quartiers centraux. Donc, ça doit jouer aussi l'objet même du conflit.
Oui, effectivement. Mais ça, en fait, nous, ce qu'on a fait dans l'approche, c'est qu'on a essayé d'identifier un peu les facteurs qui peuvent expliquer la conflictualité. On a considéré les acteurs eux-mêmes, on a considéré le lieu du conflit, on a considéré l'objet du conflit, je l'ai déjà dit, je ne sais plus. Enfin, on en a considéré 5. Et je dirais que dans l'ensemble, nous, on n'étudie pas les 5. Hein. C'est-à-dire qu'on, par exemple, dans la thèse de Mathieu, on s'était concentré sur le lieu du conflit. Dans la recherche de Luca, on s'est intéressé particulièrement à la forme du processus décisionnaire. L'idée, c'était de voir est-ce que quand le projet est amené d'une certaine manière, on peut associer ça à des niveaux de conflictualité plus élevés. Bon, ces résultats semblent montrer que oui. Hein. Il y a des manières de mener le projet. Et quand je dis de mener le projet, c'est de le concevoir, puis de le concevoir ou non en interaction avec les acteurs concernés, eh bien, qui ferait que le conflit serait plus ou moins intense. Donc on s'intéressait particulièrement pour l'instant à la forme du processus décisionnel et au lieu. Et c'est vrai qu'il y a d'autres choses qui seraient intéressantes. Puis par exemple, Luca, qui s'intéressait particulièrement à la forme, lui il a comparé des conflits qui portent sur le même type d'objet. Par exemple, fermeture d'école. Alors il a pris des conflits qui concernent les fermetures d'école, puis il a regardé, est-ce que je vois des différences dans la manière d'amener cette question-là, donc qu'une école va peut-être se fermer, explique ou non des conflictualités plus fortes. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Il n'y en a pas, on va arrêter là. Merci beaucoup pour votre attention.
Merci.